Bonjour, bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, espace d'art et d'essais contemporains. En compagnie des artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, des intérêts et des interrogations qui orientent leur pratique. Je suis Marie-Ève Charron et dans cet épisode de Point Bleu, je rencontre l'artiste Mathieu Lévesque, dont l'exposition, par Hélène en pause, est en cours à Occurrence du 19 janvier au 9 mars 2024. Diplômé en arts visuels de l'UQAM, Mathieu est un peintre aguerri qui cumule 20 ans de pratique. Il affectionne dans ses créations les dialogues posés entre les œuvres et leur contexte, se posant à la jonction de la sculpture, voire de l'architecture. Peut-être toujours habité par son passé de graffiteur, lorsque jeune adulte, il marquait le paysage urbain, une touche brute et une iconographie pop de la rue s'immiscent parfois dans ses toiles, aux contours audacieusement découpés en des formes asymétriques. Au fil des années, son langage formel est devenu plus épuré. Non loin toujours de la culture populaire, il épouse dans sa pratique les grandes traditions de l'abstraction et du minimalisme, avec des œuvres qui s'ancrent dans l'espace, défiant ainsi avec obstination les limites du support. Inventaire de formes, tableau en tant qu'objet, traitement des surfaces concrètes ou illusoires, ainsi que le dynamisme de la perception sont les composantes fondamentales de son travail, qu'il a présenté à divers endroits au Québec et plus récemment dans des projets d'art public. À Occurrence, l'exposition Paruline en pause s'offre au public depuis la large vitrine du Centre d'artistes. Un ensemble de tableaux abstraits rythme l'espace de leur format de type portrait sur la verticale. Tandis que de plus petites toiles égrènent leur présence, tantôt près du sol, tantôt à la hauteur des yeux, deux grandes interventions occupent directement le mur de la galerie. L'accrochage orchestre ainsi une relation dynamique avec l'architecture du lieu, ainsi que le répertoire restreint de motifs, des cercles, des demi-cercles et des triangles. Ils sont peints dans une palette de bleu, de rouge, d'ocre et de jaune, en aplat ou en transparence sur de larges surfaces dépouillées, mais animées par une myriade de nuances. La texture évoque un doux frémissement, le mouvement subtil suscité par une envolée. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Avec cette exposition, tu convoques le public dans un monde formel abstrait, mais qui, par son titre, introduit un référent, une évocation de la nature. Peux-tu nous raconter quel a été le déclencheur de cette série et comment t'en es venu à relier l'abstraction aux parulines?
Ben en fait, le déclencheur était pictural, vraiment, au début. J'ai préparé mes supports avec un désir plus instinctif de créer cette série-là, à la verticale. Je savais que ça allait être de manière épurée. Et tranquillement, pendant la période de création, depuis quelques temps, j'observe les oiseaux, probablement la pandémie, vraiment de manière très amateur. Et puis, étant donné que la série de tableaux des parulines, ça parle beaucoup de rythme, de musicalité dans l'espace, tout ça. Je me suis mis à faire des liens entre les rythmes séquentiels des chants des oiseaux, mais aussi les rythmes séquentiels des déplacements des oiseaux, d'un point A à un point B. Et pourquoi les parulines particulièrement? Les parulines, c'est un petit oiseau très difficile à observer, furtif. C'est toujours caché dans les buissons. Donc, je trouvais ça intéressant... parce que, justement, je m'intéresse beaucoup à l'optique, évidemment, en tant que peintre. Donc, le fait que ça soit difficile à observer, mais aussi, c'est une espèce qui a une gamme de palettes, de plumages très variés. On peut aller avoir des bruns, des noirs, des rouges, c'est très, très varié. Des jaunes ici, en tout cas à Montréal, des jaunes. Ça me permettait donc d'explorer... et de faire des liens avec cette espèce-là. Ouais.
Et puis, comment t'en es venu à arrêter une certaine palette, à choisir certains motifs? Donc, comment ce monde observé que tu contemplais t'a permis de codifier en quelque sorte un langage ensuite plus formel, plus abstrait?
Ben encore une fois, le point de départ au niveau chromatique se situe vraiment, c'est vraiment instinctif, c'est vraiment dans l'atelier. C'est en le faisant et après l'avoir fait que les liens se font. J'ai pas eu un désir de reproduire ou de représenter des palettes précises d'une espèce. Pour moi, c'était pas ça la pertinence. C'était plus le lien entre la musicalité et le système aussi, rythmique, là, bon, et la variété de couleurs. Aussi, c'était pour moi une manière d'évoquer la variété au sein d'une même espèce. Hein. On a toujours le même format, le ratio 3-2, à la verticale, donc ça parle plus d'individualité que de paysage. Hein. J'aurais pu travailler en format paysage, mais là, ça me permettait d'évoquer cette question-là, justement, de la différence, disons, et de la similitude en même temps.
Mm-hmm. Ouais. Donc, la singularité,
qui
regroupe la singularité qu'on peut retrouver dans chacun des oiseaux, mais aussi le fait qu'il y a quand même une communauté d'oiseaux à travers le format rectangulaire. C'est ça, tu viens rechercher les conventions du portrait de l'individu. Donc, le choix du rectangle a une portée significative puisque effectivement il est codé, il est associé au genre du portrait. C'est comme ça, si je comprends bien, que tu introduis la notion d'individu que tu as retenu à travers ton observation des oiseaux. Et c'est aussi, quelque part, une coupe un peu franche par rapport à tes œuvres antérieures où tu as davantage exploré le shape canvas, donc l'étoile découpée. Où là, tu explorais plus une variation de forme. Mm-hmm. Donc, en un sens, tu as choisi un format qui, lui, était plus uniforme, mais pour faire ressortir une variation plus grande, une diversité plus grande.
Bien, en fait, le choix du rectangle, évidemment, au départ, c'est vraiment pour évoquer le calme de la contemplation du tableau ou de l'espace, des oiseaux, bon, tout ça. Et aussi, bon, c'est encore une fois un désir instinctif, là, niveau... pragmatique, là. Bon, le point de départ est toujours aussi dans le plaisir de peindre. J'avais besoin de peindre ça. Parce que oui, j'ai fait beaucoup de shape canva et je vais en refaire d'autres, c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, pour moi, après avoir passé plusieurs années à travailler shape canva, pour moi, des fois, c'est exotique de revenir au rectangle. C'est assez bizarre. Bref. Mais la constante est toujours que je m'intéresse aux limites du tableau. Donc, je peux l'aborder de diverses manières. Avec le shape canvas, c'est assez évident, c'est assez sculptural. Donc, mais avec le tableau rectangulaire qui est plus classique, les manières d'évoquer les limites du tableau sont faites par le fait que j'ai composé les tableaux avec en investissant seulement les limites du cadrage avec les formes géométriques et en laissant déborder la peinture. Des traces du processus, des indices de la réalisation du tableau. Pour moi, c'est très important, ces petits détails-là. J'aime ça déconstruire les composantes élémentaires de la peinture, hein, que ce soit au niveau chromatique ou processuel. Là, chaque petite goutte, chaque matérialité, pour moi, compte. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'il y a plusieurs matérialités, plusieurs techniques au sein des mêmes tableaux. J'aime beaucoup explorer... d'un tableau à l'autre dans cette série-là, mais d'une série à l'autre aussi. J'ai une pratique assez atypique qui pourrait être un peu en zigzag, hein, même si je m'en vais toujours dans la même direction. Disons que souvent, je passe d'une esthétique un peu minimaliste à une esthétique plus maximaliste au fil de mon parcours. Ça a été comme ça. Donc, comme ici, dans cette série-là, on pourrait être plus proche d'un effet sublime, de contemplation, mais parfois, j'ai travaillé de manière volontairement irritante pour esthétiquement, pour le regard, des tableaux désagréables à regarder, même pour moi. Mais c'était le sujet de ma recherche aussi. Là.
Mm-hmm. Donc, tu l'as dit, explorer la limite des tableaux, éprouver la frontière, c'est quelque chose qui est récurrent dans ton travail. Peux-tu développer comment ça s'incarne ici dans les œuvres? Tu as parlé des traces du processus qui coulent, donc qui garnissent le pourtour des œuvres. Mais les motifs qu'on mentionnait tout à l'heure, les cercles, les demi-cercles, les triangles, comment ils sont positionnés sur la surface, sur chacune des surfaces, et ensuite comment les surfaces ont été déployées dans l'espace.
Oui, c'est ça, parce que tu parlais de mon passé de graffeur. Ça l'a En fait, cette racine-là de graffiti, du graffiti, chez moi, ça a instauré une pratique de l'in situ qui est vraiment naturelle. Puis aussi, je me questionne beaucoup sur la dépendance de la peinture envers le mur, hein, que ce soit des premiers graffitis préhistoriques, le graffiti urbain, qui est une peinture sur le paysage, finalement, qui devient le paysage. Ici, dans l'expo, ben là, j'ai peint deux grands tableaux in situ, directement sur les murs, avec les mêmes techniques que les petits tableaux. Puis aussi, c'est ça, ces tableaux-là, ils sondent les limites de l'architecture. Donc, ils vont du plancher au plafond et ils sondent souvent les coins. Alors ça faisait quand même quelques années que j'avais ça en tête. Là, je l'ai réalisé avec cette série-là. J'ai accroché aussi les tableaux en sondant les coins.
Si bien qu'on a envie d'y retoucher parfois, parce que les tableaux sont à la frontière de l'arête du mur, un peu trop bas, dans le sens que justement, tu viens jouer avec cette zone un peu irritante, on se dit, est-ce qu'il est bien placé ou il est légèrement décalé? Donc, est-ce que cette stratégie-là d'accrochage, non seulement est la façon pour toi ici de jouer avec les frontières, mais aussi, comme tu disais plus tôt, d'engager le public dans une activité de perception, voire de contemplation, qui était celle qui t'a animé lorsque tu as observé les parulines?
Oui, et puis justement, la question de la perception est vraiment très importante dans cette série-là. Bon, toujours importante en peinture, là, mais bon, évidemment, les hauteurs sont pas standards, sont pas muséales. Quelques-unes sont muséales, mais pour moi, bon, évidemment, ça fait référence aussi à la position des oiseaux qui sont... Les parulines, entre autres, sont souvent très basses, mais aussi ils volent, donc sont souvent très hautes, évidemment. Au niveau de la perception, il y a des plumages très vifs, très flamboyants, donc qui sont faits pour attirer le regard. J'ai toutes les espèces, et d'autres qui sont faites pour être camouflées. Donc, dans les deux grands tableaux, in situ, il y en a un qui est plus, disons, plus clair, plus contrasté, et l'autre, j'ai fait ça vraiment ton sur ton. Donc, lorsqu'on entre dans l'espace, le tableau foncé, on perçoit tout de suite un contraste de vert foncé, de rose fluo. Puis ça prend quelques secondes, voire quelques minutes, si on ne le regarde pas tout de suite, qu'on perçoit un demi-cercle et un cercle qui sont bleus et verts. Bon, mais vraiment ton sur ton. Donc, c'est un peu un effet de camouflage là-dedans là, qui est créé.
Moi, je trouve ça frappant. Quand on rentre dans l'expo, le corpus d'œuvre, j'ai l'impression de voir quelque chose comme une parade. Puis là, ça me fait effectivement penser au plumage des oiseaux, comme tu disais, dont la fonction peut être celle de camouflage ou au contraire d'une parure hein, pour attirer chez les mâles. Est-ce qu'il y a un lien à faire ici avec le type de technique que tu emploies? Et justement, par rapport à la palette de couleurs choisies, est-ce que tu peux développer donc, tes pigments, puis comment tu les as travaillés pour créer ces effets soit de ton sur ton ou de contraste un peu dissonant?
Les tableaux ont été faits sur des panneaux de bois enduits de modeling paste, de mortier de structure. C'est un acrylique un peu plâtré, là, bon, qui est très absorbant, bon, appliqué à la spatule. Et après ça, je me suis mis à m'amuser avec des pigments végétaux que j'avais, donc qui sont un peu difficiles à travailler. Ils se diluent pas complètement, il y a toujours de la poudre qui reste là-dedans. Aussi d'autres pigments en poudre, mais synthétiques. Mais c'est des recettes que j'ai apprises, soit quand j'ai fait de la peinture scénique ou juste en improvisant. Cette mixture-là, pour les fonds des tableaux, est absorbée très rapidement. J'ai droit à quelques secondes pour faire mes fonds. Et je laisse les coups de pinceau, je laisse les imperfections. Pour moi, je ne cherche pas à contrôler les surfaces. J'assume ce que ça va donner. Souvent, quand je peins, les surfaces peintes sont déterminées par la quantité de peinture que je me fais. Donc, je me fais une petite quantité, je remplis une surface et si j'en ai plus, j'arrête et la couleur se change. Je ne vais pas refaire la même couleur, par exemple. Donc, c'est très instinctif et je laisse vraiment la peinture travailler pour elle-même. Et après avoir fait ces fonds-là, Ce qui est assez rapide. Quand j'ai commencé la série, j'ai fait 3 grands tableaux en une journée. Là, je m'amuse à faire les petits triangles. J'ai commencé par les petits, après j'ai fait des grands, j'ai refait des petits, j'ai refait des grands. Bon, j'étais allé en 2 séquences. Et après ça, bon, c'est vraiment, oui, des fois, je me sens comme le chef gros lot un peu, là. Je mets un peu n'importe quoi, ça fait des mixtures, puis c'est ça que ça... Ça donne des surprises. J'ai des recettes, disons, de peinture qui sont parfois classiques, mais parfois inappropriées pour la conservation des tableaux. Mais pour moi, ça, c'est secondaire, disons, la conservation de l'œuvre.
Comme ici, les deux interventions murales sont éphémères, vont disparaître avec la fin de l'expo. Oui. Là, on est vraiment dans la cuisine de la peinture. Et justement, cette cuisine-là, tu le dis bien, c'est quelque chose de matériel, de physique. Et on le sent dans tes peintures, il y a des agrégats, il y a de la texture. Donc, ton univers convoque pas juste un champ optique, visuel, non, mais bien un champ tactile, justement, qui est évocateur des textures, du frémissement des oiseaux dans la nature, du vent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagnait dans la recherche plus physique ou plus matérielle,
là? Ah oui, moi, j'adore quand il y a des petites cochonneries qui s'incrustent dans mes mélanges. Je suis pas très ordonné dans mon atelier, donc souvent, j'utilise des pots de peinture déjà croûtés. Il y a des résidus qui se mélangent et...
Ça, c'est ton côté street art, là.
Bon, eh bien, c'est sûr que oui. Le côté... Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Que je disais que j'ai une pratique qui est un peu en zigzag. Donc, parfois, ça peut paraître échevelé, mais j'aime explorer de nouvelles combinaisons, je pourrais dire, là. Oui.
Donc, par cette exploration des techniques, tu as un parcours un peu échevelé, comme tu dis, qui garde un peu en mémoire des explorations peut-être plus brutes, plus directes que tu faisais en tant que graffiteur, tu sais, ce contact direct avec la matière, le contexte. Et justement, quand on fait un survol de ton travail, on constate qu'il y a beaucoup de contrastes en termes de références, hein. J'ai survolé ton corpus au fil des 20 ans, puis parfois t'intégrais des motifs plus de cartoons ou de publicité. Même encore récemment, dans tes faux finis de marbre, il y avait des petites figures un peu, c'est ça, BDS-esque, satiriques. Donc, tu navigues aussi entre la grande histoire de l'art et l'histoire... plus populaire, avec une imagerie, une iconographie qui est plus populaire, plus vernaculaire. Et je me demandais, justement, avec cette exposition-ci, comme dans d'autres, tu sembles convoquer encore une conversation avec l'histoire de la peinture, puis là, je pense en particulier au grand canon de la peinture abstraite, et même, tu me diras si j'ai raison, un Kandinsky dans sa manière de développer un inventaire de codes, de langage, mais les expressionnistes abstraits américains plus récents. Donc, ce sont des évocations très larges que je fais ici. Plusieurs de ces artistes avaient des motivations spirituelles, politiques, voire philosophiques. Toi, c'est-tu quelque chose qui te parle? C'est-tu quelque chose qui t'anime?
Peut-être pour cette série-ci, mais... Souvent, aucunement. j'ai une approche très ludique, j'ai beaucoup d'humour dans mon travail, même si c'est pas littéral. Par exemple, justement, plus au début de mon parcours, j'utilisais beaucoup le sticker, l'autocollant. Donc, c'est un geste. Y a-t-il un geste plus facile que coller un autocollant pour enfants sur un tableau? Donc, pour moi, c'était une manière très iconoclaste, oui, on peut le dire comme ça, de parler de peinture, mais souvent c'était combiné avec d'autres approches plus classiques et plus, je dirais pas virtuose, parce que je pense pas que je suis un virtuose de la peinture figurative, quoique je suis capable de la faire un peu. Mais donc, toucher des fois au trompe-l'œil, c'est ça.
Un pied de nez, là.
Oui, c'est ça, parce que mais j'ai deux influences très... très, très différent. Dans, tu l'as dit, minimalisme, surtout le minimalisme américain. Richard Serra, Frank Stella, tout ça. Et de l'autre côté, ben, le graffiti. Donc, c'est un art hyper institutionnel et institutionnalisé et sacralisé. Et puis, tu as un art subversif qui, bon, peut-être, là, commence à un peu être accepté par le grand champ de l'art officiel. Donc, moi, j'ai toujours été tiraillé par ces deux formes-là, mais aussi par ces deux milieux-là. Et vu que j'ai commencé à faire du graffiti avant de m'intéresser à l'art actuel, quand j'ai découvert l'art actuel, quand même assez jeune, mais surtout, mettons, à l'université, c'est là que j'ai vraiment connecté avec le minimalisme, entre autres. Là. Ben, le minimalisme m'a influencé beaucoup mon graffiti. Alors, j'intégrais des espaces, je créais, par exemple, des rectangles, et j'occupais un espace qui devait être lu très rapidement et devait être peint très rapidement. Donc, je rendais ça très, très minimal. Et de l'autre côté, ben oui, le graffiti, bon, comme on en a parlé, là, a influencé beaucoup ma pratique. Là.
Ça, c'est intéressant parce qu'avec le temps dans ton travail de peinture, tu viens au contraire ralentir le regard, puis tes surfaces sont évocatrices d'une temporalité longue ou superposée, qui est contraire au graffiti où effectivement il faut intervenir vite et que ce soit perceptible facilement par le kidam qui se promène dans la rue. La raison pourquoi je t'amenais vers une question plus philosophique ou spirituelle, et tu sembles avoir reconnu que ces récits font exception, c'est la référence à la nature qui semble nouvelle dans ton travail, qui repose sur une contemplation qui est née dans un moment où on t'évoquait la pandémie. Et j'ai l'impression que ça amène ton travail vers autre chose. Et, oui.
Oui, parce que au cours de ma pratique, je puisais beaucoup dans la culture, que ce soit la culture populaire ou la culture de l'histoire de l'art. Et là, récemment, je me suis mis à puiser plus dans la nature. Donc, c'était très autoréférentiel comme peinture. Hein. Je parle encore de peinture, évidemment, dans mon travail. Je pense que toutes les peintres parlent de peinture. Là. Mais là, ce n'est pas que ça. Donc, oui, ça, c'est nouveau, ça, avec cette série-là. Ouais.
Et quelque part, tu parviens à partager cette fascination que les parulines ont exercée sur toi. Et en même temps, l'impossibilité de les rejoindre.
Sont très difficiles à observer. On aimerait ça les voir longtemps, on les voit quelques secondes. Mais bon, évidemment, j'aime tous les oiseaux. Là, j'ai choisi cette sorte-là parce que je les trouvais assez mignons. Mais oui, je les aime toutes.
OK. Et donc, est-ce qu'il y a déjà un prochain oiseau qui va faire la vedette de ton travail?
En ce moment, j'ai des idées en tête et j'ai le goût de revenir à la figuration, mais c'est des idées. Peut-être que ça va être complètement un échec, mais ouais, ça me trotte dans la tête, ça, parce que j'ai travaillé en figuration quand même il y a peut-être une quinzaine d'années. Puis des fois, j'intègre des éléments figuratifs, mais oui, des fois, j'ai des petits élans comme ça. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de tableaux et il y en a beaucoup qu'on n'a pas vus parce que finalement, ils ont été... C'était raté. Donc, ça se peut que ça soit raté. Comme ça se peut que ça se devienne intéressant, on verra.
Donc, le temps d'une pause. Nous avons fréquenté avec toi les parulines. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve avec toi, Mathieu, car tu seras encore nous étonner dans le futur.
J'espère.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ben, merci à toi.
Point bleu, c'est au texte et à l'animation Marie-Ève Charron, à la technique Marion Paquette, au montage Charline Daly. Point bleu est une production d'Occurrence sous la supervision de Lily Michaud.